France Musique.
Bonjour, bonjour à tous. Et merci d'avoir choisi France Musique. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Comment le disque classique se porte-t-il depuis le début de la crise sanitaire et ses conséquences? Le streaming va-t-il supplanter la vente de disques physiques? Ces questions, on va les poser à Alain Lanceron, notre invité à 9h moins le quart, le président de Warner Classics et Erato, qui rendra aussi hommage à Maddy Mesplet, à Gabriel Baquier et à Janine Dreiss, qui viennent tous trois de disparaître, et dont Alain Lanceron a réalisé certains des plus grands enregistrements. Quand les maisons lyriques rouvrent, c'est le cas de l'Opéra de Vienne, le Royal Opera House à Londres également. Quand et dans quelles conditions? Sophie Anastasio nous en dit plus. Rendez-vous dans 40 minutes. La mort de George Floyd, requalifié en homicide volontaire. Quant aux policiers américains qui ont participé à son arrestation, ils sont désormais poursuivis par la justice. Voilà l'un des titres du journal d'Olivier Denré. Rendez-vous à 8h30. Et puis quand une musicienne d'orchestre aide les indépendants qui n'ont plus de travail, ça se passe à Londres. Et c'est l'histoire que nous raconte Suzanne Gervais dans 25 minutes.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Allez, très bon réveil en musique. Mozart, jouez au hautbois. On ne se sent plus de joie.
Thank you.
charmant, n'est-ce pas, Mozart, le rondeau de son quatuor pour hautbois et violon, alto, violoncelle. C'était Nicolas Daniel au hautbois et son Britain Oboe Quartet, grand oboïste britannique Nicolas Daniel. Il joue ce midi à Londres au Wigmore Hall avec son partenaire de récital Julius Drake. Un concert sans public bien sûr, mais avec les micros de nos amis, nos frères anglais de BBC Radio 3. Et oui, pas de public dans la salle, mais un public infini via les ondes. Et je vous en reparlerai d'ailleurs dans quelques minutes, car à la Maison de la Radio également aujourd'hui et ces jours prochains, la musique vivante va succéder au silence de ces derniers mois. Alors ces trois derniers mois, pour conjurer le sort, vous avez vu fleurir sans doute ces vidéos participatives où des musiciens professionnels semblaient jouer ensemble grâce à la magie du montage professionnel, mais aussi amateurs avec le temps d'une chanson. Il y a quelques semaines, des milliers de chanteurs amateurs ont repris de la javanaise de Gainsbourg avec Jane Birkin en marraine. Malheureusement, tout le monde n'a pas pu apparaître sur la vidéo finale. Voici une nouvelle chance. Cette fois, c'est avec la chanson De temps en temps de Paul Misraki, rendu célèbre par Joséphine Baker, et c'est la chanteuse béninoise Angélique Kidjo qui en sera la bonne fée. Alors, vous avez jusqu'à lundi pour vous entraîner grâce au tuto, au tutoriel, il se trouve sur francemusique.fr. Et puis la semaine prochaine, vous aurez deux jours, lundi et mardi, pour envoyer vos vidéos. Et puis enfin, le montage final de ce grand chœur virtuel sera dévoilé juste avant la fête de la musique, le 20 juin. Alors, cette chanson, de temps en temps, si vous ne la connaissez pas, il est temps de commencer à la voir dans l'oreille, elle est si belle.
Embrasse-moi de temps en temps. Un mot d'amour c'est incoloré, mais un baiser c'est éloquent. Ne me fais pas de longs poèmes, ne parle pas de tes émois. Pour me prouver combien tu m'aimes, de temps en temps, embrasse-moi. Dans tes bras, prends ma vie de quart de main. Tu me quittes, tu dois m'indemniser. Il faut bien que je fasse provision de baisers. Quatre jours, c'est bien long, sois prudent, chérie. Et surtout, rappelle-toi, si tu m'écris, ne me dis pas que tu m'adores, mais pense à moi de temps en temps. Car bien de fois le cœur ignore ce que la main écrit souvent. Ne jure pas d'être fidèle, je veux le croire malgré toi. Mais si les filles là-bas sont belles, de temps en temps, dis pense-moi. Du 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 do 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 Ne laisse pas mourir nos rêves. De temps en temps, rappelle-toi.
Sublime, Joséphine Baker en 1939, une chanson je trouve qui va bien avec ce jeudi pluvieux, assez apaisante, de temps en temps, chanson signée Paul Misraki, paroles et musique. Alors à vous de jouer, à vous de chanter, pour participer au grand chœur virtuel de Radio France, vous envoyez votre vidéo en début de semaine prochaine et peut-être qu'on verra votre joli minois et qu'on entendra votre douce voix sur le montage final, il sera dévoilé pour la fête de la musique. Même annuler les festivals vivent grâce à France Musique. C'est cette semaine que le festival de Saint-Denis aurait dû débuter. Finalement, le festival devrait avoir lieu cet automne. En attendant, France Musique vous propose ce soir à 20h d'aller au cœur de la basilique royale de Saint-Denis avec des concerts mémorables donnés là-bas et notamment ce soir par l'Orchestre National de France dirigé par l'un de ses plus grands chefs, Kurt Mazur. Bruckner, Wagner et Shostakovich sont au programme de cette soirée. Shostakovich est le premier concerto pour violon avec Sergueï Kachatryan. Thank you. Comme on dit, ça joue burlesque, la fin du premier concerto pour violon de Shostakovich. Et le violoniste qui joue, c'est Sergueï Khachatryan, ou Khachatryan, l'Orchestre National de France, dirigé par Kurt Mazur. Un concerto à retrouver en entier ce soir à 20h avec Benjamin François sur France Musique, concert enregistré à la Basilique Saint-Denis. France Musique qui vous fait vivre les plus grandes heures des festivals dont elle est partenaire, et cela tous ces prochains mois. 8h17 quasiment, c'est quand le bonheur? Eh bien c'est maintenant, et grâce à qui? Grâce à Alex Dutil. Son Open Jazz ouvre tous les jours de 18 à 19h, avec ou sans terrasse, c'est vous qui choisissez, plutôt sans terrasse aujourd'hui. Et ce matin, c'est lui, Alex, la voix de France Musique. Attention, scoop, il a trouvé pour nous la recette d'une journée qui commence bien.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. J'avais envie de vous faire partager un bonheur du matin. Moi, quand je mets ça, j'ai une carapace pour la journée. C'est un disque qui date de 1975, où il n'y a rien d'écrit sur la pochette. Juste, on voit que c'est un chanteur, avec un de ces micros historiques qui font rêver, qui vous font presque envie d'ailleurs de devenir chanteur ou animateur de radio. C'est un disque de Jorge Ben, le chanteur brésilien. Le disque s'appelle Força Bruta. Vous allez me dire, mais pourquoi se réveiller avec le sentiment d'une force brute? En fait, c'est pour cette chanson qui ouvre l'album. Oba, la vemela. Ça veut dire, oh, la voilà. Et alors là, après avoir écouté ça, vous êtes prêt à tout. Vous avez un rendez-vous avec votre inspecteur des impôts? Pas de problème. Vous sortez, le pneu de votre scooter est crevé ou de votre vélo? Pas de souci. Avant de sortir, vous ouvrez votre frigo pour prendre le café pour votre petit déjeuner? Il n'y a plus de café. Pas de problème. C'est le jour de fermeture de la boulangerie pour les croissants? Pas de souci. Oba, la vemela.
Que eu existo, quem eu sou. Pois eu sei muito bem quem ela é e fico contente só de ver ela passar. Oba, oba, lá vem ela. Estou de olho nela. Oba, lá vem ela. Estou de olho.
E como dizer sim? E como dizer sim? Oh, como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Oh, lá vem ela. Eu estou de olho nela. Oh, como assim? Oh, estou de olho nela. Como assim? Oh, que mamá, que mamá, como assim? Eu estou de olho nela há muito tempo, há muito tempo. Vai lá vem ela.
Balavemela, oh la voilà, Georges Eben, le choix ce matin euphorisant d'Alex Dutil qui fait entrer le soleil partout en France pour ceux qui nous écoutent. Alex Dutil qui prépare un gâteau d'anniversaire pour ce soir. Il fera souffler à Anthony Braxton, grand jazzman, ses 75 ans. Rendez-vous donc à 18h sur France Musique. Il est 8h23. L'avoir en musique qu'en douche, une écossaise si courte et si délicieuse, écossaise de Frédéric Chopin, sous les doigts de Momo Kodama. Je vous parlais tout à l'heure en début d'émission de cela. La musique revient à la maison de la radio avec, après des mois de silence, le retour des artistes, des notes de musique qui vont à nouveau résonner. Par exemple, aujourd'hui au studio 104, des sessions musicales que vous découvrirez prochainement sur France Musique. On y reviendra avec notamment Momo Kodama, donc, et puis toute la journée à l'auditorium de Radio France, les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France vont répéter masqués sous la direction de Kent Nagano. On peut d'ailleurs voir des photos sur les réseaux sociaux pour un concert, le premier concert post-confinement à ne pas rater, bien sûr. Ce sera samedi soir en direct à 20h sur France Musique et pour la vidéo sur Arte Concert. Il est 8h24. Elle nous attend chez elle en direct. On rejoint Suzanne Gervais. Enfin, j'espère. Bonjour, Suzanne.
Je suis bien là. Bonjour, Jean-Baptiste. Bonjour à tous.
London Calling, ce matin, vous nous racontez une initiative, celle d'une violoniste du Royal Opera House.
Oui, on part à Londres. Londres, où restaurants et salles de concert sont encore fermés, où la plupart des musiciens indépendants ont perdu leur travail. Face à cette crise musicale sans précédent, une violoniste de l'opéra, Amelia Conway-Jones, s'est associée à Help Musicians, un organisme de bienfaisance britannique qui est aussi implanté en Écosse et aux Pays-Bas. C'est un organisme indépendant. Il a été créé en 1921 et il aide les musiciens professionnels de la sortie du conservatoire jusqu'à la retraite. Avec Help Musicians, la violoniste a lancé le projet Musicians for Musicians, les musiciens pour les musiciens. C'est une collecte de fonds, mais pas seulement. C'est aussi un album auquel participent des dizaines et des dizaines de musiciens qui jouent des morceaux ayant en commun un même thème, celui de l'isolement. Parmi les participants, il y a les violonistes Madeleine Mitchell et Fenella Humphreys, très connues des mélomanes britanniques. Mais ce n'est pas réservé aux seuls musiciens classiques. Des artistes du jazz, de la folk, du rock, de l'électro, des musiques du monde répondent aussi présents. Quasiment toutes les pistes ont été enregistrées à la maison. Les groupes et les ensembles ont enregistré enregistré leurs parties séparément avant de mixer le tout et cet album numérique devrait sortir d'ici quelques semaines. La moitié des recettes ira aux interprètes et l'autre à Help Musicians. Le projet a déjà levé près de 16 000 livres, ce qui fait près de 18 000 euros. Pour revenir à l'action d'Help Musicians, au-delà de cette initiative bien précise, sachez que l'organisation a déjà distribué un fonds de 8 millions de livres sterling à près de 17 000 musiciens anglais ayant perdu leur travail et tout ça en un mois. Une deuxième phase d'aide arrive, destinée plus spécifiquement aux musiciens indépendants qui ne sont pas éligibles au programme de soutien du gouvernement britannique, qui est très sélectif, ça représente quand même 25% d'entre eux. Le secteur privé qui assure une mission de service public, voilà qui est typique des pays anglo-saxons. En tout cas, si vous voulez des nouvelles de Musicians for Musicians, le projet de la violoniste Amelia Conway-Jones, c'est possible, ils sont sur Twitter.
Suzanne Gervais, à demain, Suzanne.
À demain.
Musique Connectée, c'est à podcaster sur les plateformes et à réécouter sur francemusique.fr. À écouter cette histoire, donc cette initiative lancée par une violoniste du Royal Opera House. Voici tout l'orchestre qui joue. Mais si, vous connaissez. Tchaïkovski, la danse des mirlitons de Casse-Noisette, c'était le Royal Opera House.
Musique Matin, Jean-Baptiste Urbain.
Comment le disque classique fait-il face à la crise sanitaire et à ses conséquences? Comment l'écoute en streaming a-t-elle évolué ces dernières semaines? Dans un quart d'heure, nous poserons la question à notre invité Alain Lanceron, le président de Warner Classics et Erato. Quand l'alto chante en espagnol, Cantinela, c'est le titre du nouveau disque de l'altiste Tabea Zimmerman et du pianiste Javier Perianès, extrait dans une dizaine de minutes. Et puis on en parlait, le Royal Opera House à Londres va rouvrir, de même que l'Opéra de Vienne, Sophie Anastasio. Dans quelques minutes, nous en dit plus, ce sera à 8h40. Pour l'heure, France Musique, il est 8h30. L'heure du journal d'Olivier Nanré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Contredit publiquement hier par son ministre de la Défense, Donald Trump semble aujourd'hui faire machine arrière en laissant entendre désormais qu'il n'est sans doute pas nécessaire de déployer l'armée pour ramener le calme aux États-Unis. Depuis plus d'une semaine, le pays est secoué par des rassemblements de colère après la mort de George Floyd. Les manifestants et les proches de cet Afro-Américain de 46 ans réclament notamment que tous les policiers qui étaient présents le jour du drame soient arrêtés. arrêté et que celui qui a écrasé le cou de la victime avec son genou soit poursuivi pour homicide volontaire. Deux revendications qui viennent d'aboutir. Loïc Laurie nous appelle de New York.
Pour les centaines de milliers de manifestants qui défilent depuis 10 jours, c'est incontestablement une première victoire. Le procureur général du Minnesota, désormais en charge de ce dossier, a pris hier la parole. C'est bien un meurtre, dit-il, dont George Floyd a été la victime. Nous sommes ici aujourd'hui parce que George Floyd, lui, est absent. Il devrait être vivant, mais il ne l'est pas. Il y a 9 jours, le monde a regardé Floyd prononcer ses derniers mots. Je ne peux pas respirer, alors qu'il priait pour sa vie. Le monde a entendu Floyd appeler sa maman et supplier « ne me tuez pas ». Après enquête, Keith Ellison a donc décidé de poursuivre les 3 policiers jusque-là restés libres pour complicité. Quant à Derek Chauvin, ce n'est plus pour homicide involontaire, mais pour un meurtre non prémédité qu'il devra faire face à la justice, 40 ans de prison dans la balance. George Floyd compte, il était aimé, sa famille était importante, sa vie avait de la valeur, et nous demanderons justice pour lui, pour vous, et nous l'obtiendrons. L'avocat des Floyd s'est dit profondément satisfait. Keith Ellison lui prévient, il faudra du temps et le travail de toute la société pour guérir la peine que tant de gens ont ressentie. Les manifestations hier soir étaient d'ailleurs encore très nombreuses.
Des rassemblements également hier soir en France contre les violences policières. Au moins 2000 personnes à Toulouse et quelques 6000 manifestants dans les rues de Montpellier. Comme à Paris la veille, il s'agissait de demander justice à la fois pour Adama Traoré et donc pour l'Américain George Floyd. Toutes les compagnies aériennes vont pouvoir reprendre leur liaison avec la Chine. Pékin vient de donner son autorisation à raison d'un vol par semaine à partir de lundi prochain. Pékin qui interdit par ailleurs les rassemblements à Hong Kong pour commémorer le 31e anniversaire de la répression de la place Tiananmen. La population a prévu toutefois d'allumer des bougies dans toute la ville en hommage aux victimes. La direction de Ryanair veut des baisses de salaire pour sauver des emplois en France. Voilà ce que dénonce le syndicat majoritaire de cette compagnie aérienne low cost. Le SNPNC Force Ouvrière évoque un chantage au licenciement en utilisant le prétexte du coronavirus. Pas de visioconférence pour cette réunion à l'Élysée. Le chef de l'État et son Premier ministre reçoivent cet après-midi tous les partenaires sociaux. L'objectif est justement de trouver des solutions pour éviter une vague de plans sociaux et de licenciements. Le gouvernement anticipe en effet une chute du PIB de plus de 11%. Plus de 8 millions de personnes sont encore aujourd'hui au chômage partiel et le nombre de demandeurs d'emploi a atteint des sommets au mois d'avril. Parmi les sujets sur la table, il y aura donc tout à l'heure la question de l'assurance chômage. Cette réforme qui durcit les droits a en partie été reportée au mois de septembre. Mesure insuffisante, disent aujourd'hui les organisations qui représentent les salariés. Sarah Lemoine.
Le gouvernement est sous pression. Tous les syndicats réclament depuis des semaines l'abandon complet de la réforme de l'assurance chômage alors que 500 à 600 000 emplois pourraient être détruits d'ici la fin de l'année. Et pour cause, la réforme durcit l'accès à l'assurance chômage. Depuis novembre, il faut avoir travaillé 6 mois au lieu de 4 pour ouvrir des droits et sur une période plus courte. Mais le pire est à venir en septembre avec le deuxième volet, le nouveau mode de calcul de l'allocation. Les travailleurs précaires qui alternent contrat court et chômage et qui sont déjà frappés de plein fouet par la crise verront leur indemnisation baissée de 22% en moyenne. Alors la ministre du Travail a déjà admis que sa réforme avait été conçue dans un autre contexte plus favorable et qu'elle n'était plus en phase avec la réalité. Parmi les pistes qui circulent, le gouvernement pourrait assouplir les conditions d'accès et renvoyer le second volet à 2022.
Elle était hier en tête des téléchargements. En France, plus de 600 000 personnes ont installé sur leur téléphone portable l'application Stop Covid. Le gouvernement espère que cet outil numérique sera bientôt utilisé par plusieurs millions de Français. L'hydroxychloroquine n'est plus un médicament à proscrire. L'OMS décide de reprendre les essais cliniques qu'elle avait suspendus après la publication d'une étude dans la revue médicale The Lancet. Étude rapidement critiquée et avec laquelle The Lancet a fini par prendre ses distances. Une sélection officielle mais pas de festival de Cannes cette année. Les organisateurs viennent de publier la liste des 56 films qui auraient dû être projetés sur la croisette, dont 21 sont des longs métrages français. Tous ces films vont bénéficier du label Cannes 2020 au moment de leur sortie en salle. Première sortie à partir du 22 juin prochain. Des averses et des orages parfois violents sur quasiment tout le pays. Il va neiger sur les Alpes à partir de 2200 mètres d'altitude. Il y aura quelques éclaircies sur la façade atlantique. Et puis les températures, elles sont en baisse de 10 à 18 degrés ce matin et de 15 à 27 degrés tout de même cet après-midi, Jean-Baptiste Urbain.
De la neige en juin donc, et Olivier Denry qui revient demain à 8h30. À demain Olivier.
À demain.
Et si vous alliez chez William Christie, vous n'êtes pas invité, vous allez me dire, eh bien si, depuis hier et jusqu'à fin août, les jardins de William Christie à Tiré, c'est en Vendée, sont ouverts au public. Les jardins à la française, ils ont été labellisés jardins remarquables. C'est ouvert du mercredi au dimanche, limité à 100 visiteurs à la fois. Et l'entrée est de 5 euros pour découvrir William Christie, le jardinier, ses fleurs, ses arbres, ses rameaux. Christie le chef, le voilà, Rameau, Jean-Philippe. Jean-Philippe Rameau, l'ouverture des fêtes des baies, c'était les Arts Florissants, dirigés par William Christie. France Musique, 8h40. L'heure précisément de rejoindre Sophia Anastasio pour Classique Info. Bonjour Sophia.
Bonjour Jean-Baptiste.
Fermé depuis la mi-mars, l'Opéra de Vienne va reprendre ses représentations et cela à partir de lundi.
Avec un public réduit à 100 spectateurs par soir dans une salle qui peut en accueillir 1700. Il s'agira surtout de récitals et de musique de chambre. Les billets seront vendus entre 36 et 100 euros.
Et à Londres, c'est le Royal Opera House qui annonce une série de 3 spectacles pour sa réouverture.
Covent Garden promet une célébration de l'opéra et du ballet. La première représentation est prévue le 13 juin. Elle sera dirigée par Antonio Papano, avec des œuvres de Britten Endel et une pièce du chorégraphe Wayne McGregor en création mondiale.
Le Lille Piano Festival est maintenu, mais dans une version numérique inédite.
Exactement, prévu du 12 au 14 juin, cette édition mettra à l'honneur une trentaine d'artistes, parmi lesquels Alexandre Kantorov et David Kadouch. Les concerts seront filmés depuis l'auditorium du Nouveau Siècle à Lille, mais aussi New York ou encore Amsterdam. Ils seront diffusés en direct ou en différé sur la chaîne YouTube de l'Orchestre National de Lille.
Et d'autres festivals, Sophia, se tiendront cet été.
Le Festival du Périgord Noir, dans une programmation très resserrée du 6 au 10 août prochain, sans son Académie baroque. Le Festival Debussy fêtera sa 9e édition du 23 au 26 juillet, et là aussi dans une forme réduite. Le Festival de Sablé-sur-Sarthe et son Académie sont quant à eux annulés. Les mesures barrières seraient quasiment impossibles à mettre en place, indique un communiqué. Rendez-vous donc en août 2021.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
On continue quand même, Classique Info, Sophia, la FEVIS, Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés, s'est penchée sur l'annulation des représentations subies par les ensembles indépendants.
91 ensembles ont été interrogés. En tout, 1282 annulations ont été recensées de mars à juillet, ce qui représente une baisse d'activité de 43% par rapport à l'activité annuelle prévue. Et ces annulations représentent au total une perte de chiffre d'affaires de plus de 11 millions d'euros.
Et pour venir en aide aux artistes à Paris, la ville a lancé son mois d'août de la culture. Ce sera du 18 juillet au 15 septembre.
Avec le fonds de soutien qui a été développé par la ville de Paris, l'objectif est de proposer des spectacles gratuits dans l'espace public. L'appel à projets est aujourd'hui ouvert. Vous avez jusqu'au 17 juin si vous souhaitez participer. Toutes les disciplines artistiques du spectacle vivant sont éligibles. Les budgets des projets déposés devront se situer entre 2000 et 20 000 euros. Toutes les informations sont à retrouver sur paris.fr.
Un mois d'août de la culture qui durera donc 2 mois presque. Classique Info, Sophie Anastasio à retrouver sur francemusique.fr. Et c'est dans la rubrique Actualité musicale. Sophia, à demain.
À demain.
Piazzolla, Faya, Granados, Villa-Lobos, voilà les 4 noms qui sont écrits sur le nouveau disque de l'altiste Tabea Zimmermann et du pianiste Javier Perianès. Il est sorti chez Harmonia Mundi. Cantinella, c'est le titre de l'album, car il s'agit essentiellement de transcriptions de mélodies chantées, à l'origine donc en espagnol pour l'instrument de la musicienne allemande. Alors à côté de ces 4 noms, il y a d'autres compositeurs, et notamment Javier Montesalvage. En 1945, il écrit ses Cinco Canciones Negras, c'est notamment cette berceuse sur un rythme d'habanera que Tabea Zimmermann chante avec tant de douceur avec l'archet de son alto. Écoutez. Thank you.
J'espère que ça vous a plu autant qu'à nous. Un extrait des Cinco Canciones Negras de Xavier Montesalvache. Tabea Timmerman à l'alto, Javier Perianes au piano. C'est une nouveauté parue chez Harmonia Mundi. Le disque s'appelle Cantinella. Deux disques, nous allons parler avec notre invité ce matin sur France Musique. Il est 8h47.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique. Jean-Baptiste Urbain.
Car notre invité est un grand nom du disque, réalisateur de tant d'enregistrements de légendes, avec notamment les chanteurs Maddy Mesplé, Gabriel Baquier, Janine Reiss également, chef de chant, qui viennent de nous quitter. On va en parler dans quelques minutes. Bonjour Alain Lanceron.
Bonjour.
D'abord, vous êtes le président de Warner Classics et d'Erato, ce qu'on appelle un major de l'industrie du disque. Alain Lanceron, avant le confinement, on parlait déjà d'une crise sans fin de cette industrie. Aujourd'hui, après ces deux mois de confinement inédit, qu'avez-vous observé sur l'évolution de la consommation de musique enregistrée ?
Ça dépend dans quel pays. En France, la France a été, on peut dire, le pays le plus touché par la crise parce que les ventes physiques représentaient toujours un poids considérable, à peu près 75% des ventes, tandis que le digital et le streaming en particulier représentaient qu'à peu près 20-25% maximum, tandis que dans certains pays comme les États-Unis, ce pays avait déjà basculé totalement dans le digital qui représentait plus de 80% des ventes. Donc évidemment, la crise a évidemment bloqué les ventes physiques, en particulier en France d'ailleurs, où elles se sont carrément arrêtées. Et ce qui fait qu'en France, au mois d'avril, les ventes ont baissé par rapport à avril de l'année d'avant de 80%. Et du coup, en cumul, pour les quatre premiers mois de l'année 2020, on est à moins 40% dans un marché qui était déjà très faible pour le classique, puisque le classique ne représentait plus que moins de 2% du marché du disque. Donc on ne sait plus s'il faut voir ça comme un signe positif ou négatif. Ce sera intéressant de voir comment les ventes vont reprendre, en particulier les ventes physiques, jusqu'où le curseur va aller dans le retour au physique. Mais en même temps, c'est une opportunité pour la France de basculer dans le monde digital comme d'autres pays. Et c'est vrai que le monde digital aujourd'hui est plus florissant. Alors, est-ce que l'arrêt des ventes physiques, est-ce que le confinement a aidé à développer les ventes en digital et en streaming? Un petit peu. C'est vrai que le genre classique a profité plus que d'autres à la crise, mais enfin d'une manière encore insuffisante. C'est surtout les supports audiovisuels plus que les supports visuels purs qui ont profité de cette époque.
Alain Lanceron, est-ce que vous savez précisément ce qui a été écouté pendant le confinement? Est-ce qu'on peut savoir?
Alors, si on regarde les meilleures ventes du mois, on est passé, et ça c'est presque un petit peu dangereux, on est passé d'un marché assez qualitatif et artistique, entre guillemets, on va dire, à un marché à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire d'easy listening, de crossover, de musique plus facile à écouter, de compilation. Et c'est fou d'ailleurs, en une semaine, le marché a complètement basculé, avec des quantités évidemment très faibles, puisque vous avez vu, le marché a baissé de 80%, mais c'est un peu l'image du marché physique qui s'annonce s'il n'y avait plus du marché qui s'annonce s'il n'y avait plus de ventes physiques. Donc tout ça va reprendre, tout ça va retrouver son cours, et il faut là déjà en mois de mai la reprise s'annonce, il y a déjà des ventes qui redémarrent, et évidemment nous tous éditeurs nous avons dû remodeler notre programme et d'enregistrement et de sortie en repoussant certaines sorties évidemment soit au mois de juin soit à l'automne, et voilà, les choses vont reprendre leur cours et nous sommes assez optimistes pour quand même pour les mois qui viennent.
Vous êtes parvenu quand même à Warner Classics à enregistrer un disque pendant le confinement.
Oui, vous voulez parler du disque pour les Symphonies pour la vie.
Voilà.
Oui, absolument, avec cinq artistes, avec beaucoup d'artistes, dont cinq artistes exclusifs de notre catalogue. Et c'est un disque qui vient de sortir et qui va sortir d'ailleurs la semaine prochaine en physique.
Précisément, on parle...
Aujourd'hui même, aujourd'hui, bon, le confinement est fini, mais le bon signe de la reprise, aujourd'hui même, nous avons deux enregistrements en cours à la scène musicale, un avec le Quatuor Eben et Antoine Damesti de Quintette de Mozart, et l'autre avec Philippe Charouski et son ensemble Artaserse, consacré à des grands airs d'oratorio. Vous voyez, donc... La reprise est là.
Le Quatuor Eben, auquel nous consacrerons une journée spéciale mardi prochain pour cette intégrale Beethoven dont on a beaucoup parlé sur France Musique. Donc les enregistrements se poursuivent. L'été notamment, qui est une période propice aux enregistrements. Alain Lanceron, gardons quelques minutes pour parler de ces artistes qui viennent de nous quitter. Le baryton Gabriel Baquier le mois dernier, Maddy Mesplet le week-end dernier, et puis la grande professeure chef de chant, même si elle n'aimait pas le mot, Janine Rice. Vous les avez très bien connus, à IMI, que vous avez dirigé. Quel était le rapport de ces artistes au disque, à l'enregistrement ?
Bon, c'est des artistes qui... Alors, Baquier et Mesplet, d'un côté, c'est deux artistes avec une très forte personnalité qui ont un peu sauvé l'honneur de la France dans les années 60, avec quelques autres d'ailleurs, mais où le chant français et l'activité à l'opéra et l'opéra comique pouvaient être soit formidables quand c'était ces bons, grands chanteurs qui chantaient, mais pouvaient être aussi très médiocres par ailleurs. Donc vraiment, ils ont sauvé le chant français. Ce sont deux artistes avec une personnalité très importante, avec une immense musicalité, avec une immense sensibilité, avec des timbres de voix qu'on reconnaissait immédiatement, ce qui est toujours la définition d'un grand artiste et d'un grand chanteur. Voilà ce qu'on peut dire, on pourrait en parler pendant des heures.
C'est un âge d'or de là, du disque aussi, avec eux.
Oui, je ne sais pas si c'est un âge d'or, mais oui, mais ils ont commencé leur carrière discographique à la grande époque du micro-sillon, oui, ça, c'est sûr. C'est sûr. Quant à Janine Rice, c'est quelqu'un qui partageait d'ailleurs avec Maddy Mesplet et Gabriel Baquier cette rigueur musicale, cette immense musicalité. Et c'est quelqu'un qui était extrêmement exigeante dans son travail, qui était adorée par les plus grands artistes. Beaucoup, beaucoup d'artistes internationaux venaient travailler chez elle, rue de Courcelles, et beaucoup de chefs et les plus grands faisaient appel à elle quand il s'agissait d'opéra français en particulier, et elle avait ce don de faire dire aux notes et aux mots un peu plus que ce qu'on entend d'habitude. Elle arrivait vraiment à trouver des chemins d'expression et d'émotion totalement formidables, et c'est pour ça qu'elle a eu la carrière fantastique qu'elle est.
Merci.
Moi, je peux vous dire, par exemple, elle a été de toutes mes intégrales d'opéra pendant 20 ans, en particulier toutes celles que j'ai faites avec Michel Plasson et à Toulouse avec l'Orchestre du Capitole.
Merci beaucoup Alain Lanceron, président de Warner Classics et Erato. Et je voudrais qu'on se quitte avec Maddy Mesplet. Elle en a peu chanté sur scène, mais beaucoup enregistré, de l'opérette Véronique, André Messager et son plus célèbre duo.
Scarpelette, poussons pour bien à la froisser, par ce manège la coquette, enfin espère me lasser, espère me lasser. Allons, soyez plus sérieuse.
Me voilà plus grave que vous.
Pourquoi vous montrez si moqueuse lorsque je suis à vos genoux?
Mais je pense à votre futur, puis je lui volerai son époux.
Ma future?
Et oui, vraiment, votre future. Et le monde qui m'est énormément, la chère créature.
Aura-t-elle votre gaieté? Grâce enchanteresse, l'éclat de ce rire argenté, enfin cette fleur de jeunesse.
Peut-être bien, voyez-vous, ne jurons de rien.
Non, non, pour moi la femme unique, c'est vous, c'est toi, c'est Véronique.
Je vous crois.
Les voix de Maddy Mesplé, de Michel Danse, l'orchestre des concerts d'amoureux dirigé par Jean-Claude Hartmann. C'était Véronique d'André Messager. C'est la fin de Musique Matin. Jean-Frédéric Emmanuel Rose était à la technique. Yacine Bouzard à la réalisation. Marion Guillemet avec Taïsia Froidure et Margot Muller à la coordination. Demain, notre invité sera le violoncelliste Christian-Pierre Lamarca. On parlera notamment musique et écologie à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Si je ne m'abuse, Rodolphe Bruno Boulmier est en train de pousser l'escarpolette. D'Émilie Munera, bonjour. Ah.
Bonjour Jean-Baptiste.
Ça vous tourne un peu la tête?
C'est un peu ça, dès le matin.
Il y a du lourd dans notre émission.
Bah, Grégory, comme tous les jours.
Bah, Grégory Sokolov, c'est quand même le disque qui fait débat, donc on va écouter ça. Théodore Kurenzis, c'est souvent le musicien qui fait débat également, donc ça va être une émission qui ne laissera pas...
Controverse.
Et belle controverse en plus, ce sont de magnifiques musiciens. Bonne journée.
À demain.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.